Bienvenue sur Une semaine, un livre. Je suis Elodie, amoureuse des livres depuis ma jeunesse, je les aime en tant qu'objet, mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Sur ce podcast, je vous propose de me retrouver chaque semaine pour un moment de partage littéraire. Vous allez y retrouver mes recommandations, celles de mes invités, des retours de lecture commune ou encore un format journal de lecture. Et si ces recommandations font écho en vous, vous les ajouterez peut-être à votre propre bibliothèque. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode consacré au club de lecture Pharmakeia et pour échanger avec moi aujourd'hui, il y a Élise. Bonjour Élise.
Bonjour.
Et il y a Daphné. Bonjour Daphné.
Bonjour.
Les auditeurs les plus assidus pourront vous reconnaître puisque vous êtes déjà intervenus au moins une fois chacune dans le podcast. Donc avant de passer à la suite, première question, comment allez-vous ?
Ça va bien. Content d'être en hiver et des fêtes qui approchent.
C'est vrai, on enregistre vraiment à quelques jours du réveillon. Donc l'esprit de Noël est totalement présent. Et toi, Élise ?
Ça va très bien aussi.
Alors, dans cet épisode, nous allons parler de notre lecture du mois de novembre 2022. Et en fait, ça a été impossible de nous mettre d'accord sur une lecture commune. Mais c'est pas grave. On a innové en laissant tout simplement le choix des lectures libres, mais en les incluant dans un même thème. Et pour le mois de novembre, le thème, c'était polar et thriller. Donc on est allé piocher tout simplement dans notre page ou dans notre bibliothèque ou acheter un livre qui entre dans le thème polar et thriller. Et dans cet épisode, on va vous présenter une sélection, donc ce qu'on a lu sur le mois de novembre qui entre dans le thème. Je vais avoir besoin d'une volontaire pour commencer. Qui veut lancer les hostilités ?
Moi, je veux bien.
D'accord, vas-y Daphné. On t'écoute, qu'est-ce que tu as lu ?
Alors, au mois de novembre, j'ai lu L'ultime secret du Christ de José Rodríguez dos Santos. Et c'est un thriller. Pour résumer l'histoire, j'ai essayé de faire un résumé sympathique. C'est un roman qui raconte une enquête criminelle peu commune. L'histoire commence par un meurtre affreux, celui d'une paléographe dans la bibliothèque vaticane. Donc, on se retrouve en Italie. Elle a été égorgée alors qu'elle était en train d'étudier un des plus vieux exemplaires de la Bible, le Codex Vaticanus. Et donc, on va suivre cette enquête qui est menée par une enquêtrice italienne qui s'appelle Valentina Ferro. Et elle est accompagnée d'un historien cryptologue qui est aussi un ami de la défunte, Thomas Noronha. Et donc, c'est une histoire qui mêle meurtre, mystère et religion.
Ça me fait penser un peu aux différents Dan Brown. Ça ressemble à la même recette.
Il paraît que ça y ressemble beaucoup. Je n'ai jamais lu aucun Dan Brown.
J'avais lu Da Vinci Code, mais bon, après La plume de J.R. dos Santos, j'ai lu quelques extraits. Elle est quand même bien différente.
D'accord. Bon, il faudra que je le mette dans ma liste des Dan Brown. Donc, en intrigue, on a donc ce premier meurtre, mais il y en a deux autres qui se déroulent dans deux autres lieux, à quelques heures d'intervalle, et ce sont des meurtres qui sont reliés. L'enquête nous mène à Jérusalem, et on va suivre l'histoire sur un fond d'analyse historique de la Bible, de la vie du Christ, des fraudes qu'on peut retrouver dans la Bible, etc. Et c'est assez intéressant, je dois dire. On y retrouve quatre lieux, puisqu'on a le Vatican avec les meurtres, Dublin pour le deuxième, une ville en Bulgarie pour le troisième. Je ne m'aventurerai pas à la prononcer. Et enfin, Jérusalem, c'est là que se déroule la deuxième partie de l'histoire. Donc, comme je disais, on a une inspectrice qui s'appelle Valentina Ferro, qui est italienne, l'historien cryptologue Thomas Noronha, qui est portugais, et ensuite, on a Arnie Grossman, qui est un inspecteur israélien, et Arpad Arkan, qui est le président d'une fondation qui a un sacré rôle dans l'histoire. Donc, il faut savoir que moi, c'est une relecture. La première fois que je l'avais lu, je l'avais beaucoup aimé. Il y a 8 ans de ça, je l'avais énormément aimé. J'avais trouvé ça peu commun, puisqu'on s'attaque très peu à la religion dans les romans, dans les livres et tout ça.
C'est vrai.
Et là, je dois dire que finalement, j'ai beaucoup, beaucoup moins aimé, parce que je l'ai trouvé plutôt long. Toute la première partie, c'est vraiment les explications sur la Bible. Il y a beaucoup de monologues de la part de l'historien et très peu d'actions liées aux faits qui se déroulent et qui sont hyper importants quand même, parce que c'est à partir de ça qu'on a l'histoire qui commence. Et la deuxième partie, il y a un peu plus d'action. On continue avec le côté historique, mais il y a un peu plus d'action. Et finalement, c'est un peu plus intéressant et j'ai réussi à beaucoup mieux lire à partir de la deuxième partie.
Est-ce que tu penses que le fait que ce soit une relecture, ça a pu influencer sur ton appréciation de cette lecture-là ?
Non, parce que je pensais vraiment que j'allais beaucoup aimer, parce que j'avais le souvenir d'avoir énormément aimé l'histoire la première fois. Donc je m'étais dit, ouais, non, ça devrait aller, ça devrait bien se passer, mais je pense que j'ai peut-être une autre vision des choses. À l'époque, j'étais très en conflit avec la religion, maintenant je le suis beaucoup moins. Donc maintenant, c'est un peu plus OK.
Apaisé.
Ouais.
D'accord. Et est-ce que ce serait un livre que tu serais en capacité de recommander ?
Alors oui, pour les gens qui aiment bien les débuts d'histoire un peu longs, que les mises en place se fassent longuement et qu'après il y ait de l'action vraiment. Pour les personnes qui sont non-croyantes, ça passe. Et pour les personnes qui sont croyantes mais qui n'ont pas peur de remettre en question leurs croyances, surtout au niveau de la religion chrétienne, parce que bon, là on s'attaque vraiment à la Bible et à la vie du Christ. Pour ceux qui n'ont pas peur de remettre en question leur religion, ça va. Mais pour les autres, je pense que ce n'est pas vraiment le type de lecture que je leur conseillerais.
D'accord, d'accord, d'accord. Merci pour cette présentation.
De rien.
Maintenant, ça va être à ton tour, Élise. Qu'est-ce que tu as lu sur le mois de novembre ?
Alors moi, j'ai lu Innocent de Harlan Coben. C'est un polar. C'était mon premier Harlan Coben. J'en avais beaucoup entendu parler de cet auteur et j'avais vraiment envie de le découvrir. Et ça n'a pas vraiment été à la hauteur de ce que j'attendais. On va dire ça comme ça.
Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà ce qui se passe dans le livre ?
Oui, bien sûr. Donc, c'est l'histoire de Matt Hunter qui a passé 4 ans en prison suite à une bagarre dans laquelle il a tué par accident la personne avec qui il se battait quand il était jeune. Et ça se passe 9 ans après sa sortie de prison. Il est marié avec une jeune femme qui s'appelle Olivia, qui est enceinte de leur premier enfant. Il vit dans une petite ville américaine. Lui, il est devenu assistant juridique dans le cabinet d'avocat où travaillait son frère qui est décédé. Et sa vie va à nouveau complètement être bouleversée quand il va recevoir une vidéo sur son téléphone portable de sa femme qui est à un rendez-vous avec un homme inconnu dans une chambre d'hôtel. Alors déjà, première chose, c'est un livre qui a été écrit, il me semble, en 2005 ou 2006. Donc le côté technologie, enfin c'est les vidéos toutes grainées sur des petits écrans. Enfin, on n'arrive plus trop déjà à voir la chose, quoi. C'est à l'époque des iPhones et de tout ça. Enfin, on a un peu de mal à se remettre dans le bain il y a presque 20 ans, voilà, au niveau de la technologie.
C'est vrai.
Et alors j'ai eu surtout beaucoup de mal avec la plume de l'auteur, en fait. Je ne sais pas si ça vient de la traduction ou si c'est comme ça dans tous ses livres. Mais les descriptions, le temps qui est utilisé, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre, en fait. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de mal à vraiment rentrer dans le récit, ce qui fait qu'au bout de la moitié du livre, j'ai failli l'abandonner.
Oh.
Et puis, je me suis retrouvée à devoir prendre le train et donc à devoir lire quelque chose. Donc, je suis repartie avec mon livre. Donc, j'étais obligée, quoi.
Par défaut.
Et je suis contente d'avoir continué quand même, parce qu'à partir de la moitié du livre, je suis vraiment beaucoup plus rentrée dans le récit, il y a beaucoup plus d'action, ça devient beaucoup plus intéressant. Et donc du coup, je suis passée outre le fait que j'arrivais pas à accrocher avec le style d'écriture, parce que l'action et la façon, et l'intrigue sont vraiment beaucoup plus intéressants qu'au début, et donc je suis vraiment rentrée dans le livre grâce à ça, en fait. Ce qui fait que je pense que je vais essayer de découvrir d'autres livres d'Harlan Coben.
Oui.
Parce que les intrigues sont vraiment très, très intéressantes, voilà. C'est vraiment plus le style avec lequel j'ai du mal. Alors peut-être essayer aussi de le lire en VO, peut-être aussi que ça m'aidera, on ne sait jamais.
Ouais, peut-être.
C'est peut-être aussi une question de traduction, ça peut arriver des fois, pourquoi pas.
Bah, j'avoue que j'en ai déjà lu quelques-uns, moi, de Harlan Coben. Et Innocent, je ne sais même plus si je l'ai lu ou pas, parce que quand on lit quelques-uns d'Harlan Coben, tu finis par t'emmêler les pinceaux et les confondre.
Pour beaucoup d'auteurs policiers comme ça, au bout d'un moment, quand on lit beaucoup, tu sais plus lesquels t'as lu ou pas lu. Hein.
Ouais, donc c'était pas une super bonne lecture, même si la seconde partie rattrape un peu au niveau de l'intrigue.
Ouais. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment que ça a été je pense, peut-être trop long à se mettre en place aussi, peut-être aussi un peu comme sur le livre de Daphné. Là, c'était pas une question d'explication, c'est une question qu'au début, on a vraiment l'impression qu'on sait pas du tout où on va, en fait. On a l'impression qu'il y a plein d'intrigues différentes qui sont raccrochées pas du tout les unes aux autres.
Ouais.
Et on part un peu dans le flou comme ça. Et à partir de la moitié du livre, tout se raccroche, les morceaux se raccrochent les uns aux autres. Et là, à ce moment-là, on comprend vraiment là où on va. Donc c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant à lire. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Ça a été peut-être très long à mettre des choses en place et j'ai eu du mal, du coup, à rentrer dans le livre. C'est dommage parce que sinon, au niveau de l'atmosphère aussi, c'est un peu oppressant comme atmosphère. C'est un peu...
Il y a plein de suspense et de tension.
Ouais, puis ça met assez mal à l'aise. Il y a pas mal de choses qui mettent un peu mal à l'aise. Enfin, c'est intéressant, du coup, quand même. C'est un peu mitigé, quoi, comme lecture.
Faudrait que j'arrive à me souvenir de est-ce que j'ai déjà lu ce livre ou pas et est-ce que j'avais aimé. Sauf que si je l'ai lu, ça devait être il y a très longtemps, genre peut-être quand j'étais fin collège en 2008, tu vois.
Ouais, donc ça fait longtemps.
Et de là à m'en souvenir, est-ce que j'ai bien aimé, sachant que 2008, ça fait un peu jeune pour lire ce genre de livre. Donc en fait, il y a toutes les chances que j'ai juste lu en grande diagonale parce que j'adorais lire et que juste d'avoir un livre à la main, j'étais la plus heureuse. Du coup, j'aurais du mal. Mais je sais que j'ai lu d'autres Harlan Coben qui valent plus le coup. Donc,
Ce que là, du coup, on part sur le milieu de la prostitution, sur des choses comme ça. Donc c'est vrai que quand on est ado, je pense que c'est peut-être plus compliqué.
Ouais, mais enfin, non, mais j'ai lu plein de trucs de pas de mon âge.
Non, mais moi, j'étais pareil, donc t'inquiète pas.
Mais après, j'avais quand même un certain filtre. Fin...
Oui, enfin, ça rentre pas dans des choses... C'est pas difficile à lire, quoi, mais c'est des sujets qui sont un peu difficiles. Enfin, pas difficiles, quoi, mais...
Un peu lourd pour une collégienne.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est ça. Mais d'un autre côté, en fait, j'avais une faculté à être extrêmement naïve. Donc, en fait, tout ce qui est sous-entendu, j'étais... Bon, je comprends pas ce truc-là, donc je passe à la suite. Et il faut dire que l'écriture d'Harlan Coben est pas spécialement hyper choquante dans le sanglant comme d'autres auteurs.
Non, non, non.
Il y a beaucoup de sous-entendus. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas lu du Harlan Coben, c'est vrai. Eh bien, moi, je vais vous présenter ce que j'ai lu également. J'ai lu un thriller d'une autrice française, Claire Favant. Le Tueur de l'ombre, c'est la suite d'un précédent tome qui s'intitule Le Tueur intime. Et Le Tueur intime, je l'avais lu pas l'année dernière, mais en 2020. Bon, j'ai un doute, mais je l'avais lu avant. Pas cette année, en tout cas. Et donc, dans ce roman, on retrouve en fait le même tueur en série que dans le premier. Et comme le premier se suffit un peu à lui tout seul, bon, bah, on connaît l'identité du tueur en série, etc. Sauf que là, il va être transféré. Et au moment de son transfert, il se retrouve séquestré et torturé. Quand j'ai voulu préparer le résumé, il y avait un mot que j'avais au bout de la langue, c'était kidnappé. Mais comme c'est pas un enfant, ça me gêne beaucoup. Donc il a été enlevé et s'est retrouvé séquestré et torturé par un illustre inconnu dont le seul but était de l'asservir. Donc au final, on retrouve le même tueur en série, mais si dans le premier tome, il est sanglant, assoiffé de meurtre, là il se retrouve victime, tout simplement. Et surtout, il prenait du plaisir à tuer et cette fois-ci, il se retrouve contraint de tuer puisque son tortionnaire le force à commettre avec lui des meurtres. Donc il y a cette partie malsaine où il est victime et on le force à aller tuer. Donc c'est un peu bizarre. C'est très malsain, cette partie-là. C'est très appréciable à lire. Et ce n'est pas parce qu'il est victime qu'on va développer de la compassion pour ce personnage. Non, non, pas du tout. Tout est bien fait pour qu'on déteste vraiment bien tout le monde. Donc ça se passe bien. Il n'y a pas de conflit interne en mode on a de la compassion pour un tueur en série. Ça, ça va. Mais c'est un procédé qui est super bien parce que ça a la particularité de renouveler le récit pour le second livre. Donc ça fait intervenir un nouveau personnage qui est tout à fait présent, qui est tout à fait malsain et dont l'identité est quand même très floue. Et du coup, ça rend ce second livre totalement addictif comme le premier. Pour la partie enquête, puisqu'on a notre tueur en série qui se retrouve à tuer contraint avec ce tortionnaire, et notre enquêteur principal du premier tome, il se retrouve embarqué à nouveau à la quête de son tueur en série qui a été enlevé et séquestré. Et si dans le premier tome, il était déjà bien impliqué dans la partie enquête, il était personnellement impliqué, là c'est encore pire, mais vraiment pire. Et c'est pas forcément à son avantage, parce que du coup, ça a changé ma vision de lectrice de ce personnage. Dans le premier tome, j'avais une certaine compassion pour lui, envie qu'il réussisse, de le pousser, de l'encourager, de lui dire « mais tu vois pas ci, tu vois pas ça ». Là, je l'ai détesté.
Ah oui.
Voilà. J'avais envie qu'il se casse. Mais c'est super bien de changer de sentiment par rapport à des personnages qu'on connaît déjà. Parce que justement, on n'a pas cette impression d'un deuxième tome hyper morne où il ne se passe rien. J'ai adoré le détester. C'était trop bien. Et il faut avouer que quand même, il va lui arriver des choses encore plus personnelles dans ce tome. C'est un peu flou parce que j'essaie de ne pas dévoiler, parce que comme c'est un second tome, ça ferait dire beaucoup de choses aussi par rapport au premier, mais il est impacté personnellement. Et il faut avouer que l'autrice, elle ne va pas au dos de la cuillère avec lui. Hein. Que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, elle ne va pas au dos de la... avec le dos de la cuillère. Et c'est bien. J'ai aimé voir ce personnage torturé. J'ai aimé voir le tueur en série du précédent tome être torturé également. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. Et c'est tout à fait, du coup, une duologie que je recommande parce que la tension est maintenue tout au long du récit. Si on est souvent déçu par les seconds tomes, ici, je trouve que Claire Favant a su renouveler son intrigue et aussi sa vision des personnages pour qu'on soit curieux de savoir ce qui se passe et garder le lecteur assoiffé de la suite, puisqu'on change totalement nos sentiments envers les personnages, quoi. C'est hallucinant. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de Claire Favant.
Non, pas du tout.
Du tout.
Je vous recommande.
Mais ça donne envie, là, ce que tu as décrit, l'histoire et tout ça, ça donne envie de lire, de voir ce qui peut se passer.
Ouais. Bah en plus, j'ai eu la chance de d'échanger avec elle et d'assister à une interview. C'était pas moi qui animais, c'était quelqu'un d'autre avec elle. Et maintenant que je connais un peu plus aussi son procédé d'écriture, ce qu'elle veut dire dans certains de ses livres que je n'ai pas encore lus, hein, pour certains, je comprends mieux comment ça marche et je trouve que c'est vraiment bien fait. Et comme elle est française, j'ai envie de la mettre en avant. Donc voilà pour ce que j'ai lu. Après, j'ai lu d'autres livres qui rentraient dans le thème, mais qui n'ont pas fait sensation. Donc j'ai choisi de parler uniquement du livre que j'ai vraiment apprécié. Il est maintenant temps de conclure, à moins que vous ayez envie d'ajouter quelque chose par rapport au livre que vous avez lu.
Non.
Non.
Alors, on va passer à la dernière question. Et j'ai voulu changer de la traditionnelle question de la lecture en cours pour entrer plus dans le thème et dans l'époque actuelle. Puisqu'on est à quelques jours du réveillon, et je me suis demandé s'il y avait un livre qui pourrait se retrouver sous le sapin et qui vous ferait particulièrement plaisir.
Bon, alors, le Père Noël a une liste avec beaucoup de livres, de toute façon, donc, donc j'espère en avoir quelques-uns sous le sapin. Celui que j'attendrai le plus, très bonne question. Je ne sais pas si toi, Daphné, tu as une réponse, il faut que je réfléchisse. Hein.
J'avais pensé à un livre sur le true crime, écrit par les youtubeurs qui font du true crime, comme Victoria Charlton ou Sonia Liu. Ce qui me fait pas mal envie aussi, c'est les livres illustrés par Benjamin Lacombe. Il a par exemple illustré l'histoire de Alice au Pays des Merveilles. C'est un peu creepy sa façon de dessiner, j'adore ça, j'aime beaucoup ce type d'univers.
Effectivement, moi j'ai déjà entendu parler de Benjamin Lacombe, mais je suis jamais allée voir ses dessins. Je trouve que les BD et les romans graphiques, c'est une très bonne idée de cadeau parce que souvent, c'est un budget un peu plus qu'un livre de poche ou même un brochet, ça peut être un peu plus cher. Et pourtant, le travail derrière est juste monumental. À cette période, quand on a besoin de cadeaux et que c'est quelqu'un qui aime la lecture, ça peut être une très bonne idée de piocher dans cette partie-là. Alors, Élise, tu as trouvé l'inspiration de livres qui te ferait particulièrement plaisir?
Justement, Daphné qui parle d'illustrateur, ça m'a fait penser à celui que je rêverais d'avoir pour Noël. C'est un nouveau livre qui vient de sortir sur les œuvres peintes de Tolkien, en fait, sur ses aquarelles et ses dessins. Et c'est un collector d'une partie de ses aquarelles et de ses dessins sur Le Seigneur des Ados et les Hobbits. Et alors moi, comme je suis une grande fan de Tolkien, celui-là, je l'ai vu en librairie, je me suis dit... Alors c'est un très grand format, c'est un très beau livre, et c'est un livre cher, quoi, mais il a l'air magnifique.
Je crois que tu viens de faire grossir la liste de Noël de Daphné.
Ouais, totalement.
Parce que c'est aussi une très grande fan de Tolkien. Et moi, je vais vous faire un aveu. J'ai mis la pression à mon chéri pour qu'il m'offre un livre en particulier. Il a dit, je m'en fous de tout le reste. Je veux ce livre-là. Si je n'ai pas, je vais bouder. Ça va être infernal. Mais bon, je lui facilite un petit peu la tâche. Il n'a pas à se casser la tête pour un cadeau. Et du coup, c'est la fameuse suite de Marie Robinette Coven. Donc, il est sorti en novembre de cette année. Ça devait sortir en octobre et c'est sorti en novembre. Ça s'appelle Sur la Lune. Et c'est le troisième tome. Les deux précédents s'appellent le second vers Mars et le tout premier vers les étoiles. Et comme ces romans ont changé ma vie, je trouve ça important qu'il soit sous le sapin. J'espère qu'il y sera. Surtout pour lui, parce que sinon il sait que je vais bouder. Et puis, j'ai hâte de le lire. J'ai super hâte de le lire. Merci à vous les filles pour votre participation à ce nouvel épisode du Club de lecture. Et on se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à lui laisser une note sur Spotify ou à le commenter et à le noter sur Apple Podcast et surtout à le partager autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen pour le podcast de gagner en visibilité. Vous trouverez dans les notes de l'épisode tous les éléments qui le concernent, le livre dont on a parlé, où retrouver mes invités et également les différents comptes réseaux sociaux du podcast. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes lectures et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.